Hello, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bi-hebdomadaire de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Je suis entouré de Fred, Jérémy, Julien, salut les
potes.
Bonjour.
La vibe va être différente, parce qu'on est samedi matin, on enregistre samedi matin, il fait beau, on remplace les bières par le café. Oui, on enregistrait parce que hier, Jérémy n'était pas disponible, parce qu'on fêtait l'anniversaire du papa de Jérémy, et parce qu'on sait que c'est un auditeur. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Merci pour lui.
Comment il s'appelle ?
Pascal.
Joyeux anniversaire Pascal.
Merci pour lui.
Bref, revenons au cinéma. En première partie, le film d'un petit réalisateur. Le premier film d'un petit réalisateur, un certain Ethan Coen. Et Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, à qui on devait le succès de Drive My Car. En deuxième partie, Jérém analyse les chiffres des frères Coen. Je vais vous refaire une histoire de star. Et j'espère que cette fois, tu ne vas pas deviner en deux secondes, Frédéric.
Oui.
Et on conclura avec mon propre Joker.
Attends, t'as dit petit cinéaste pour Ethan Coen ?
C'est un euphémisme.
C'est un euphémisme.
Ah, okay.
Mais c'est parce que c'est son premier film solo.
Ah.
Ok. Bref, mais que se passe-t-il dans l'actualité du cinéma en ce moment ?
Eh bien, vous savez, la saison 1 de Fallout est enfin arrivée sur Amazon Prime. Mais à peine cette saison arrivée, on nous parle déjà d'une saison 2. Alors, ça a fuité. Ce qui s'est passé, c'est que en Californie, vous avez donc la California Film Commission qui a montré une liste. En fait, c'est une liste de plusieurs séries films qui vont pouvoir bénéficier d'aide en fait à la création. Et dans cette liste, on retrouvait Fallout. Donc, ça présume une saison 2 de Fallout. Et d'après les statistiques qui sont sorties, cette saison 2 permettrait d'insuffler 153 millions de dollars à l'État californien. Donc, avec les acteurs qui vont être payés, avec les équipes techniques qui vont venir, tous les frais locaux que ça va permettre d'engendrer. Et ça permettra aux producteurs de la série d'avoir une réduction d'impôt de 25 millions de dollars. Et en plus de ça, profitant de la sortie de la saison 1 de Fallout, Bethesda, donc l'éditeur du jeu vidéo, a annoncé une mise à jour gratuite sur Fallout 4, donc une mise à jour pour les PS5, Xbox X, et aussi une mise à jour sur les anciennes versions de console, donc l'Xbox One et la PS4. Donc cette mise à jour, rien d'exceptionnel, passage à 60 FPS, des corrections de bugs, quelques packs en plus, voilà. Pour rappel, bug, Fallout 5 s'est sorti il y a quasiment 10 ans, c'était en 2015. Fallout 4, pardon, était sorti il y a quasiment 10 ans, c'était en 2015, voilà.
Ça ne rajeunit pas.
Fred.
Du coup, Cannes, l'annonce de plein de films en compétition pour le festival de Cannes. Moi, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a pas mal de films un peu qui sont dans le cinéma de genre. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de genre, donc je vous parlais de cinéma de genre. Ce qui m'a intéressé dans cette compétition, du coup, c'est par exemple Coralie Farja, qui revient avec un second film, celle qui avait fait Revenge, qui est un Rape and Revenge américain, qui était super bien. Et là, elle revient avec The Substance, qui est aussi un film de body horror avec Demi Moore. Noémie Merlant, qui réalise son deuxième film, qui est aussi un film de genre qui s'appelle Les Femmes au Balcon, qui sera présenté pour les séances de minuit. Et donc ça a l'air super cool. Et puis bah, le maître un peu du body horror, David Cronenberg, avec Les Linceuls. Est-ce que vous savez ça parle de quoi ?
Je sais qu'il y a Vincent Cassel et c'est qui la deuxième actrice ?
Je sais pas, c'est pour ça que je demandais.
Mais je sais qu'il y a Vincent
oui,
Cassel.
Oui, je sais qu'il y a Vincent Cassel.
Okay.
Bah, trop bien. Et puis mis à part le cinéma de genre, il y a beaucoup de noms qui ont été retenus, que j'ai retenus. On sait tous des grands films comme Mégalopolis de Coppola, qui fait un peu peur, je crois, à certains, de ce que j'ai entendu. Des petites rumeurs sur ce film qui...
Ça a le titre de film qui pourrait faire 3h30.
C'est ça. Bah, je crois que le film est hyper long, mais je crois que le vrai problème, en tout cas, du film en ce moment, c'est qu'on n'est pas encore sûr de l'avoir parce qu'il n'a pas de distributeur français.
C'est ça. Non, en général, il n'y a pas de distributeur tout court.
Même tout court, ouais.
Parce que Coppola est allé vendre son projet au studio, et parce que maintenant le film est terminé, puisqu'il l'a autoproduit. Et tous les studios sont en mode.
Ils ont peur, ouais.
Ouais, parce qu'en plus, ils demandent un sacré budget. Ils demandent quasiment le budget qu'il a mis sur le film, ils demandent le même en marketing. Donc, et les studios sont pas prêts pour l'instant à accéder à cette requête.
Ouais, effectivement, il a mis, je crois, à peu près 180 millions de sa fortune personnelle dans ce film. Parce que c'est vraiment son projet qu'il essaie de faire depuis des décennies.
J'ai vu qu'il veut le faire depuis 87.
Ouais. Bah, du coup, s'il a un succès à Cannes, il arrivera peut-être à trouver ses distributeurs.
Justement, je crois que certains parlent de plateforme, quoi. Mais. Ça, s'il est sur une plateforme et que. Enfin, tu vois.
Si Coppola gagne sa troisième palme d'or, peut-être que oui, il trouvera un distributeur.
Mais si c'est un four. Parce que ça peut l'être aussi, hein.
Ça peut l'être. Et dernier film que vraiment j'ai super hâte, c'est Léo Carax avec C'est pas moi, qui est un film autobiographique qui revient sur sa carrière. Voilà.
Je sais pas si t'as vu, mais je crois que c'est un moyen métrage.
C'est un moyen métrage, ouais.
Ah
à
bon
peu près, ouais. De 50 minutes, je crois.
Mais j'ai vu, ouais, que c'était très autobiographique.
Oui,
sur,
totalement.
Un récap sur ses 40 ans de carrière.
Mais non, en ce moment, t'as que ça, quoi.
Son dernier, c'était Annette.
Ouais, c'était Annette. Donc il revient sur ça. Et puis en ce moment, ouais, y a beaucoup de réels qui font vraiment que des films autobiographiques. Je pense aussi à Desplechin. avec Spectateur.
Ça, c'est son cinéma depuis toujours, Desplechin, après.
Ah ouais, il est hyper auto-centré.
Non, mais tout son cinéma est basé sur les souvenirs d'enfance et le rapport à la famille, mais qui est très sien.
Je connais pas du tout.
Okay. Paul Dédalus, c'est ça ?
Voilà, c'est
oui,
ça.
Exactement. Jérém.
Alors, il y a eu une flopée de trailers dernièrement.
Ah ouais.
Mais celui qui a retenu le plus mon attention, c'est celui de Maxine.
Ah putain, je croyais que t'allais dire Joker.
Non, c'est moi qui vais dire Joker.
Merde, ok. C'est pour ça, je lui laisse. Donc, troisième volet de la trilogie X, Pearl, Maxine. Donc, on espère qu'il y aura une sortie en France parce que. Toujours pas de distributeur français parce que. Bah voilà. Parce que j'ai vu que le trailer n'était sorti que sur la chaîne YouTube de A24 et non pas sur celle d'un distributeur français.
C'était quoi Est-ce que je te rappelle les deux premiers des distributeurs?
Alors, le premier, c'était Kino Vista. Qui était okay. une petite ouais. boîte. Et le deuxième, vu qu'il est sorti en direct tout DVD et Blu-ray, c'était via Universal Pictures. Ah. Donc c'est un peu dommage, parce que tu te dis, putain, Universal, ils auraient pu le sortir en salle quand même, Pearl. Non, ils ont fait une sortie directe tout DVD et Blu-ray. Et donc on espère pour ce troisième volet qu'il y aura une sortie en salle en France. Et ce qui m'a le plus retenu mon attention dans tout ce trailer, c'est que je sais pas quel genre ça va être. En fait, en voyant le trailer, je me suis dit. Alors, attends, ça part sur du slasher, mais en même temps, ça a l'air d'être un petit peu un thriller. Enfin, voilà, ça parle de drame, un petit peu. On a l'impression qu'il y a un petit côté drame dans le truc. Fin.
Moi, de ce que j'avais compris, c'est que ça allait être très inspiré du Galio. Donc, tout ce qui est Dario Argento, tout ce qui est le film de... En fait, le slasher à l'italienne dans les années 70. Ouais. Genre 10 femmes pour 6 femmes ou 10 femmes pour l'assassin. J'ai plus le nom du film, mais exactement ce genre d'ambiance.
Ah ouais, d'accord.
Moi, ça me fait plus, je sais pas, j'avais un peu l'impression d'avoir une vibe de Palma, genre un peu. Genre ouais. Dans le slasher, mais très de ville, quoi. C'est beaucoup dans la ville.
Et le casting est fou, en plus.
Ouais, hein. Donc, non, mais trop hâte. Et je sais pas, en distrib, moi, je sais pas pourquoi, je verrais bien Jokers prendre ce film. Il y a vraiment une vibe, genre The Jokers et ce film, genre Maxine.
Ouais.
Bah, moi, c'est le Joker 2 qui m'intrigue un petit peu. Mais en même temps, j'arrive pas à savoir non plus quoi en penser parce que. Il y a des discours un peu contradictoires entre ça va être un film musical, ça va pas en être, ça va être une comédie musicale, mais il y a que 3 chansons, je sais pas trop. Moi, le trailer me laisse un peu perplexe. Genre, ça va être la même sauce que Joker 1, mais peut-être pas plus développé que ça. Je sais pas ce que ça vous inspire.
Moi, j'ai envie de croire au fait que ça va être vraiment un film totalement différent, qui va oser juste être un film de comédie musicale. Tu vois, genre, que Todd Phillips s'éclate à faire un film de comédie musicale.
Moi, j'y crois pas du tout, mais...
Ça m'a fait un peu souffler, les trailers. Pas tant à cause de Joker en lui-même, parce que moi, le premier film, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher en termes de non-originalité, en termes de pure pastiche... De Taxi Driver, de La Valse des Pantins. C'est un film que j'ai quand même apprécié, mais c'est plus à cause des réactions du public. Cette extasie pour des plans, le fameux plan du sourire.
Ah oui, ah non, mais là, au bout d'un moment... Ouais.
Et c'est cette sorte de ouais, « ça va être exceptionnel ».
Jérém en a fait un tweet.
Je sais, mais après, des gens qui se pignolent et qui se disent après, déjà c'est le meilleur film de l'année, voire de la décennie, alors que le trailer vient de sortir, putain.
T'as le grand public est à nous, voilà, nous on est les mecs.
Non, mais j'ai pas envie de faire mon condescendant et de dire que le grand public a tort, parce que le grand public a parfois raison. Mais arrêtez de vous extasier, c'est qu'une putain de bande-annonce, quoi.
On est des putains d'élitistes.
Par contre, je suis très content de retrouver Lady Gaga au cinéma. Oui.
Moi, je. Oui. Non, c'est ça qui me donne envie, ouais. Star is Born, tu l'as pas vu, toi, ouais, mais c'est toujours genre génial. Elle est trop forte en actrice. Enfin...
Mais j'entends des gens qui disent, ouais, Lady Gaga, c'est pas une actrice, mais je crois que c'est toi, Fred, qui m'avait dit qu'elle avait quand même eu le Golden Globes pour.
Non, c'est moi, mais.
C'est Jérém.
Elle a eu le Golden Globe pour la saison 5 de American Horror Story.
Ah non, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une actrice, Lady Gaga.
Voilà, ça fait 10 ans.
Chanteuse.
Voilà, c'est... elle a des grandes qualités d'actrice. Ah, oui. Donc, je suis très content de la retrouver dans un film.
Nous verrons, mais. Ne nous extasions pas trop sur un trailer, parce qu'un trailer n'est jamais plus qu'un...
Un argument marketing.
Trailer.
Mais c'est un argument marketing quand même.
Bref, on est longtemps passé sur les news.
C'est vrai.
On va enfin parler du cœur de cette émission et des critiques. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir forcé pour faire Drive Away Dolls, les gars, parce qu'on va parler de Drive Away Dolls.
Pourquoi t'es désolé? T'as pas aimé...
Bref. La rupture entre les légendaires frères Cohen et Acté, Joël a fait Macbeth et Ethan fait son premier film solo qui s'appelle Drive Away Dolls. Alors Cohen ensemble, c'est très bien, mais Cohen en solo, qu'est-ce que ça vaut?
T'as vu Macbeth?
Non.
Je quitte la ville. Ça tombe bien parce que moi aussi, tu veux aller où toi?
T'as là assis en Floride. Ça fait longtemps que je suis pas heureuse.
Cette virée, on va la faire ensemble, mon petit cœur. On va se reprendre en main à quatre mains.
Ouais. Curly Convoyage, votre référence pour la livraison de voitures en Pennsylvanie.
Ce cher Curly...
M'appelez pas Curly.
C'est pas votre nom?
Je m'appelle Curly, mais on se connaît pas. Pas de familiarité.
On vient pour la voiture.
Attendez, Vous avez demandé une livraison à Tallahassee. Et là, ces deux gonzesses sont débarquées en disant qu'elles allaient à Tallahassee. Elles se chargent de conduire à votre place. Ça vous embête?
Ça se pourrait, si elles tombent sur les colis.
Jamie et son amie Marianne sont à la recherche d'un nouveau départ. Elles se lancent dans un road trip, mais les choses tournent mal lorsqu'elles croisent en chemin un groupe de criminels bras cassés. Je suis désolé.
C'était court comme pitch.
Bah ouais, en même temps, ça évoque pas trop ce qu'est le film en soi.
Il a pas aimé en plus, donc il n'aimait pas du sien.
Ah non, mais c'est le pitch que j'ai trouvé sur officiel. Hein. C'est toujours, je prends toujours le pitch officiel.
Je crois que ça résume bien le film.
Et ouais, notre silence résume bien ce qu'on pense du film.
Ah bah non, moi je trouvais ça trop bien.
Sérieux?
Ah ouais,
j'étais sûr.
Ah, je trouvais ça tellement con, je m'en bats les couilles, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien parce que c'était con, c'était pas prise de tête, c'était un film marrant quoi. Avec des effets, mais vraiment, il abuse tout quoi. Toutes les transitions, tous les petits trucs avec Miley Cyrus, genre vraiment. Ouais. En fait, j'allais le voir au 9h au Hall, j'étais grave fatigué, il m'a réveillé. Genre,
il t'a réveillé.
J'étais en mode, ah, en vrai, c'est marrant, tu vois. Donc, non, j'ai passé un bon moment après, de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, non. Mais moi, j'ai bien aimé l'idée, oui, de s'amuser, de faire un film totalement con, quoi.
Moi, il y a juste un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est le fait qu'on entend Funkadelic, Maggot Brain.
Je pensais à la même chose, oui. Voilà, j'étais très content d'entendre ça.
J'ai pas compris pourquoi il y avait ça dans le film, pourquoi il y avait des effets de 70s hippie drogue avec Funkadelic.
Ah, mais vraiment, il y a rien à comprendre en fait dans ce film.
Le seul point positif que je peux en trouver, c'est que ça dure 1h20, et c'est déjà pas mal.
Julien.
Ouais, c'est vrai. Mais la limite entre l'humour et la vulgarité est fine et elle est largement franchie.
C'est pas drôle,
c'est juste vulgaire, assez ennuyeux, très peu recherché. Et c'est une parodie de soi en fait. Tu retrouves. Alors, je ne suis pas une grande connaissance du cinéma des frères Coen, mais de ce que j'ai pu lire et même du peu que j'ai vu, donc c'est-à-dire Fargo, tu retrouves cette ambiance-là, c'est-à-dire les deux criminels bras cassés. Mais Fargo, tu avais cet humour très cynique, très noir, alors que là, on est dans un humour très gras. Mmh.
Très grotesque. Mais effectivement, tu sens bien que c'est du Coen, parce que l'idée même des Coen, enfin de Fargo en tout cas, mais même de Big Lebowski ou tout ça, c'est que tu as une histoire principale, mais les personnages passent leur temps à parler d'autres choses. Et c'est de ça dont il est question Fargo, c'est que t'as un crime qui est absolument odieux qui se joue, et les personnages n'ont absolument pas cette chose en tête, ils pensent à autre chose. T'as la flic qui est jouée par...
qui est enceinte. Frances McDormand,
bah voilà, qui est enceinte. Et justement, elle est plus obsédée par la question de « je suis enceinte » que « j'ai un crime à résoudre ». Et du coup, tu retrouves ça un peu dans Drive Away Dolls, mais poussé au forceps, parce qu'en fait, les personnages n'ont pas d'autre discussion que... Le cul.
Bah, ça parle beaucoup de cul, mais en même temps, c'est pas si vulgaire que ça à l'image, tu vois. Genre, ils vont pas non plus dans... Non ?
Je sais pas, moi j'ai trouvé ça grotesque. En fait, j'ai trouvé le personnage incarné par Margaret Qualley, là, insupportable. Okay. J'avais envie de la baffer tout le temps. Et justement, quand c'était les deux...
Misogyne ?
Ouais, je
préfère la blague. Je suis désolé. Et quand c'est... Du coup, je vais avoir l'air encore plus misogyne, mais les deux gars, les deux bras cassés, là, les...
Tu préférais leur histoire à eux ?
Bah, juste leurs interactions étaient un peu plus Coen. Ouais. Dans le style de Coen, quoi.
J'allais dire peut-être qu'il s'appelait la personne féminin, mais j'ai pas vu beaucoup de
films. Ça a été scénarisé par une femme.
Oui, qui est également la monteuse du film avec la monteuse du film.
Ouais. Bah faut lui retirer. Comment il s'appelle le
Avid.
Non, le logiciel de montage par lequel on commence tous, là, Movie Maker. Faut lui retirer Movie Maker.
Oh, c'est méchant ça.
Parce que les transitions, les gars.
On faisait.
Non, mais le truc qui est intéressant, le truc qui est remarquable, c'est qu'on a l'impression qu'il veut faire un parallèle entre le chemin, enfin, et le parcours entre les deux héroïnes et les deux mecs bras cassés. Donc, mais sauf que il y en a, t'as envie de suivre leur histoire, et l'autre non.
Juste pour le nom de la scénariste, c'est Tricia Cook qui avait travaillé au montage sur les autres films des frères Coen.
Bah ouais,
donc elle n'est pas débutante, donc je comprends pas les choix qui ont été faits, donc que ce soit par elle ou par Ethan.
C'est Ethan, ouais.
Pour ce film, notamment, oui, les transitions sont moches. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une co-réalisation entre Dupontel et Ethan Coen.
Ah ouais.
Je me suis dit que ça pourrait quand même donner quelque chose d'assez magnifique à voir.
Ouais. Non, écoutez, moi, j'ai débranché mon cerveau, j'ai regardé le truc, ça m'a amusé. Ça m'a amusé, ouais.
Ouais, je sais pas.
Plein de god, plein de...
Mais bon,
c'est ultra stéréotypé, en fait. Mais
oui.
pas que ce soit dérangeant, c'est juste que, en fait... ça propose pas quelque chose de très sensationnel, quoi. C'est des stéréotypes et des clichés déjà vus. Et même en termes de pattes, c'est censé être un film qui se passe à la fin des années 90, début 2000. Tu sens jamais que t'es dans cette période-là. T'as une forme très générique qui se diffuse dans le film, en fait.
Oui. Mais moi, c'est juste les interactions entre les personnages que je trouve complètement superflues, quoi. C'est les dialogues, je les trouve pas bien écrits, quoi. Et ça aide pas les actrices, hein, qui sans doute elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais vraiment les interactions entre les deux actrices principales, je trouve ça toujours extrêmement superflu et vain.
Non, mais il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que ce soit réalisé par un homme et que du coup qu'il y a du male gaze. Je suis désolé, le problème c'est pas le male gaze, c'est que ce soit un mauvais film tout court. Hein,
Je trouve pas qu'il justement il y ait du male gaze justement par rapport à la sexualisation. À quel moment il tombe dans une sexualité de la femme, justement c'est toujours bien coupé, c'est jamais le but en fait de montrer des femmes à poil en train de baiser, quoi, tu vois.
Ah, c'est juste beauf en fait, mais beauf.
Mais je trouve pas qu'il y a un male gaze pour le coup là.
Non.
Je trouve que ça a quand même été bien géré sur ce coup là.
Non plus, mais c'est juste le problème, c'est que ça soit un mauvais film, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est
un film qui peut-être se veut être un mauvais film, tu vois, de mauvais genre, tu vois, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il abuse tout dedans.
Bah alors si c'est ça,
bah oui, je pense pas qu'il soit dit je vais faire un film, c'est le meilleur film de ma vie. Enfin, tu
si
vois,
c'est ça, il a fait un navet du coup, il voulait peut-être faire un nanar, mais il en a fait un navet. Hein.
Moi juste le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve que les choix artistiques sont de mauvais goût. Enfin, on n'a pas à remettre en question les qualités de réalisateur et d'écriture de Cohen, quoi, parce que
je pense qu'il a voulu faire un film de mauvais goût, et moi ça a marché sur moi en tout cas.
Moi je trouve ça dommage, quoi. Me dis putain, quoi, le gars il a projeté 70 balais.
Ouais, son premier film ça soit ça, ouais, je comprends.
Ah, ouais, et que c'est les blagues de son premier film en solo se limitent à Big Pout Poil.
C'est quand même une histoire.
C'est une histoire, c'est deux lesbiennes qui trouvent une mallette qui appartient à des criminels, sauf que la mallette en fait ce sont des godemichets qui appartiennent au sénateur qui veut pas que ça se découvre. Et du coup, vu que le godemichet est quand même très gros, on va quand même l'utiliser sous la douche.
Voilà.
Bah, quand la seule proposition de ton non mais la seule proposition de ton film c'est ça. Et pourtant, enfin, je peux comprendre que le côté loufoque, ça va toujours plus loin, c'est ça. C'est tu dis qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette, tu sais que ça va être un truc à la con. Oh bah c'est les godes, mais oh vu que c'est des lesbiennes, elles vont utiliser les godes. Mais tu peux aimer les trucs loufoques. Enfin, le cinéma de Guy Ritchie, c'est des trucs loufoques. Des films un peu comme on avait pu avoir avec Bullet Train, c'est des trucs très loufoques. Mais c'est ce que je dis en fait, c'est ce que dit Wayne, ça devient du mauvais goût en fait. Quand tu répètes ta blague, tu vas toujours la pousser plus loin, et que tout tourne autour de la sexualité, c'est vite ennuyeux quand même.
Si bon, tuer Pedro Pascal au bout de 3 minutes de film, c'est quand même sacrilège. Hein.
Oh, après, ça, c'est un peu sa patte à lui de mourir dans tous les films.
Ouais, mais.
Petit hommage à Goth, dans la façon dont il meurt.
J'avoue. Mais ouais, puis moi en plus, là, quand j'ai vu la course-poursuite de Pedro Pascal avec des plans débulés, je déteste les plans débulés.
Ah oui, oh putain, ouais. Je me suis dit, à quel moment tu vas mettre ta caméra à droite, parce que s'il te plaît.
En fait, dès le début, il veut te dire, bah non, vous allez voir ce film, c'est juste.
Ouais, mais je sais pas, moi, c'est un effet de style. Enfin, tous les effets de style du film, je déteste ça.
Après, il y a beaucoup de débulés dans Seven. Il y a un peu des plans débulés quand même.
Dans Seven ?
Ouais.
Pardon, je... Non ?
Ouais, mais là c'est très tape à l'œil en fait.
Ah oui, non, mais là c'est tape à l'œil, mais tout film est tape à l'œil, hein. C'est ouais. Fait exprès, quoi. C'est...
Pourquoi Seven ?
Je sais pas pourquoi, je repense à Course Poursuite et je me rappelle qu'il y avait des plans un peu débulés. Comme tu aimes pas les plans débulés et que t'adores Seven, je voulais te contrarier.
Non. Non, dans Seven, il y en a un ou deux dans la Course Poursuite, effectivement, mais ça s'arrête là. Hein. Je l'ai par cœur en tête. Ah, je peux pas me test. Bon, moi j'ai pas plus de choses à dire sur Drive Away Dolls, je trouve ça juste effroyablement mauvais et j'ai beaucoup soufflé du nez.
Putain, moi j'ai rigolé un peu.
Bah c'est tant mieux pour toi.
Ah, tant mieux pour toi, franchement. Ouais. Bon.
Il a le sourire. Non, mais tant mieux pour toi si t'as passé un bon moment.
C'est un mauvais film, qui se veut être un mauvais film, donc c'est pas grave, tu vois.
Mais si t'as passé un bon moment, mec,
je suis content pour toi.
Moi je suis pas content pour moi, je suis pas content pour Julien et Jérémy parce qu'on s'est fait chier, putain.
Bah allez voir d'autres Cohen, voilà.
Oui, on va en parler des Cohen d'ailleurs, non. Dans les chiffres.
Juste après.
Mais est-ce qu'on clôt le sujet Drive Away Dolls ?
Oui.
Oui. Peut... Et du coup, les chiffres de Drive Away Dolls ?
Alors, budget 8 millions de dollars.
Ah ouais, c'est peu.
Bah, franchement, vu ce qu'il y a dans le film, heureusement que c'est pas plus, j'ai envie de dire.
C'est pas faux.
Actuellement, au cumul mondial, il est à 6,6 millions de dollars de recettes, dont 5 millions aux USA. Et pour sa première semaine en France, il a fait 36 478 entrées. C'était le sixième des nouvelles sorties. Le premier des nouvelles sorties de cette semaine étant Godzilla X Kong.
Jérémy a beaucoup lutté pour faire passer Godzilla X Kong dans cette émission. Et on lui dit non, le dernier Cohen et tout.
Ça se trouve, ce serait plus marré avec Godzilla X Kong, mais bon.
On aurait pu avoir Nous les Le Roi aussi.
Ouais,
ça, c'est, le roi, ça, ouais. C'est, ouais, ça c'est regrettable. Mais plutôt que Nous les Le Roi, on a décidé de partir sur le dernier film de Ryusuke Hamaguchi, qu'on peut considérer peut-être, bon, je sais pas, on va en parler, comme un des chefs de file du cinéma japonais contemporain. Bref, il revient avec Le Mal n'existe pas. Ce film lui a valu le Lion d'argent à la Mostra de Venise, et on va voir ce que ça vaut.
今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。
地下水は下の地域の湧き水になるし、
この辺りのことは何でも教えてくれる。
Takumi et sa fille Anna vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire, tout confort vers la nature, va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Quand on a vu l'affiche et le titre, on s'est tous dit « Oh, il va faire un thriller ». Ce qui n'est pas du tout le cas, hein. C'est un drame, finalement. C'est un drame. Est-ce que vous étiez mis au courant que c'était un drame avant d'entrer dans la salle, ou vous avez été surpris ?
Non, justement, parce que le film s'appelle « Le mal n'existe pas », ça m'a fait penser à un autre film, et j'essaie de trouver le titre, là, ce que vous allez peut-être m'aiguiller. C'est un film coréen d'horreur.
J'ai rencontré le diable, peut-être, du coup.
Voilà.
Putain, j'hésitais.
Exactement, et je sais pas pourquoi, j'étais parti vraiment sur un truc, ça a été un film très, genre, quand même dans le hors-champ. Il y a un truc qui est vraiment bien hardcore, en fait. Je m'attendais vraiment à un film comme ça. Mais et non. Du coup, j'arrive, et j'étais avec toi en plus.
Oui.
Et pendant 20 minutes, t'es en mode, ah ok, non, le mal va arriver, tu vois. T'attends toujours qu'il y a un truc qui arrive.
C'est vrai que.
Un truc vraiment bien hardcore, et j'étais en mode, ok, je suis pas prêt là.
C'est vrai que, en plus, le film commence avec le personnage principal qui coupe des troncs d'arbres et qui utilise sa hache et sa tronçonneuse. Et Fred, à un moment, il y a un plan sur la gamine. Fred, il m'a regardé avec terreur en mode, il va se passer un truc.
Non, mais voilà, j'attendais un truc. Mais non, alors, après, je dis ça, mais finalement, le film est quand même assez horrible. Enfin, quand il pense, c'est quand même un peu atroce comme film, mais ça le montre jamais, quoi. Ça...
Mais en même temps, le mal n'existe pas dans ce film.
Exactement. Mais voilà, moi, j'étais vraiment parti sur un film d'horreur, thriller, j'ai rencontré le diable.
Qu'est-ce que tu as à dire, Julien ?
Moi, j'y étais allé en sachant de quoi ça allait parler. Enfin, je savais que ça parlait de cette histoire de camping, etc. Et j'ai trouvé ça très beau. J'aime
très
beaucoup
beau.
Hamaguchi.
D'accord. Jérém, qu'est-ce qu'on en a pensé ?
J'ai bien aimé le côté contemplatif, plus que dans Drive My Car, peut-être, parce que ça durait moins longtemps. Parce que pour avoir vu Drive My Car au ciné, j'étais un peu long. Je trouvais ça un peu longuet. Et là, sur 1h40, Hamaguchi, je peux tenir.
Un peu longuet.
Moi, j'ai adoré parce que c'était mon premier Hamaguchi. J'ai pas vu Drive My Car, j'ai pas vu ses autres films. Et vraiment, j'aime trop. Vraiment, il a une patte hyper.
Identifiable.
Et c'est genre, mais vraiment incroyable.
Je te conseille Asako 1 et 2.
Ok. Non, mais vraiment, j'ai adoré. Ça me donne trop envie de voir ses autres films.
Non, moi, j'ai rattrapé Drive My Car la veille. Et ouais. Je préfère largement Drive My Car. Je trouve que. Ouais. Alors, est-ce que c'est peut-être peu de films pour identifier tout le cinéma d'un gars? Mais je trouve que les effets de style d'Hamaguchi fonctionnent nettement mieux dans Drive My Car que dans Le Mal n'existe pas. Genre, j'ai l'impression que ce gars-là, c'est beaucoup de longues scènes de dialogue qui tergiversent autour d'un sujet précis ou non, mais des scènes de dialogue qui peuvent durer 15 minutes, mais qui sont très, très agréables à suivre.
Après, il faut savoir que Le Mal n'existe pas, c'est un film très expérimental. Parce que de base, c'était pas censé. Ce film s'est fait au fur et à mesure. À la base, Hamaguchi, il avait fait des plans pour sa compositrice, la compositrice de Drive My Car, pour un clip, il me semble. Il devait illustrer une musique. Et en fait, à partir de ces fragments-là, il est atterri sur Le Mal n'existe pas.
Ah, ok.
Donc en fait, c'est un film qui s'est créé au fur et à mesure. C'est pas un film qui est en projet avec un scénario défini. Et c'est pour ça que c'est un cinéma. Je trouve c'est pour ça que ça fonctionne très bien. T'as cette entrée, t'as cette captation du réel, en fait.
C'est vrai que l'intrigue en tout cas du glamping, c'est comme ça qu'ils appellent, du camping glamour, elle survient au bout de 20 minutes de film, durant une longue discussion sous forme de réunion, qui est la meilleure scène du film. Et finalement, même cette intrigue-là n'est finalement que peu exploitée, c'est pas vraiment le centre du film.
Mais je trouve que c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est qu'à la base on a donc ces plans de forêt, c'est vraiment un générique de 5 minutes où tu vois des arbres. Sans dialogue, sans rien, juste une musique qui berce. En fait, tu vois juste des moments très triviaux, c'est le quotidien. Donc, cueillir le wasabi, couper du bois. Et justement, donc, c'est comment, à partir d'un projet expérimental d'illustration d'une musique, tu as cette histoire de camping qui vient s'insinuer, s'infiltrer dans le film. Et c'est totalement ça, c'est comment l'économie vient... s'insinuer dans le quotidien de personnes.
Ouais, le début, tu vois, dans la manière de filmer réel, je repensais pas mal à du Bresson ou à du. Enfin, ou même le truc montage interdit de Bazin. Tu vois,
ouais,
vraiment, t'es dans le réel, tu laisses le plan tourner, tu. C'est filmé du réel et c'est pas chiant. Parce que des fois, les trucs comme ça peut vite être chiant. Et sauf que là, non.
Mais c'est pour ça qu'en termes de mise en scène, tu commences par des plans, tu commences par du travelling ou des plans fixes où c'est les personnages qui vont se déplacer dans le cadre. Et ensuite, quand tu arrives dans cette réunion, donc le moment où donc tu as les deux personnes de la ville qui viennent s'infiltrer dans ce monde rural, là on passe vraiment sur du champ contre champ, champ contre champ. Mmh. Et en fait, là où ça va totalement changer, c'est que là, eux ils arrivent dans la ville et qu'on passe dans leur réunion. Là, on est sur des champs contre champs super rapides, c'est-à-dire qu'on passe sur la visio, sur lui, sur là, et en fait, t'as vraiment ce changement de monde qui est illustré comme ça.
De toute façon, les 20 premières minutes, c'est vraiment fait en sorte que tu t'habitues à cette routine, quoi. Que tu deviens un peu un de ces villageois qui habitent là-bas, quoi. Enfin, que tu comprennes un peu l'organisation de ce monde. Et du coup, comme tu dis, ouais, voilà, ensuite voir le montage de la vie.
Mais même toi, en tant que spectateur, en fait, tu es mis comme un participant au glamping, puisque toi, tu es dans ta salle de cinéma et on t'invite à découvrir un univers totalement rural, paradisiaque. Donc, en fait, tu es un peu ce fameux client qui est cherché par les entrepreneurs du film.
Mais tu disais tout à l'heure que les enjeux du glamping, justement, ils venaient un peu mettre le bazar dans cet environnement-là. Et c'est vrai que le film expose assez bien les problématiques que représente un tel projet, parce que t'as cette longue scène de discussion du coup entre les gens qui viennent présenter le projet, qui sont pas les instigateurs, c'est juste des représentants de l'entreprise, et les villageois, et il y a vraiment ce dialogue là qui est tout en calme et tout en douceur, et ils sont pas, alors il y en a un qui est très énervé, mais tous les autres ils expliquent vraiment très calmement et de manière très claire et concis les enjeux que ça engendre. Et toi, en tant que spectateur très parisien, et c'est vrai que, pour le coup, je pense que Hamaguchi, c'est vraiment, enfin, par rapport à Drive My Car, c'est un gars qui s'adresse beaucoup à un public urbain. Et justement, venir intégrer ces problématiques très rurales à un public urbain, c'est judicieux.
Tu t'en viens toi-même à vouloir vivre cette vie. Enfin, un peu comme le personnage, j'ai oublié, de Takahashi, celui qui est à la limite de dire « c'est moi qui vais prendre le rôle du gardiennage, qui vais faire le rôle du gardien ».
Bah, c'est le représentant qui en fait kiffe trop finalement le monde rural.
C'est ça, la vie, qui kiffe trop la vie, et qui, ça fait un peu penser à toutes les personnes qui vivent dans des communes, dans des communes, grandes communes, qui veulent partir à la campagne, etc. Enfin.
Et oui, là je fais un petit pas en arrière, c'est vrai que tu prends un film comme Asako 1 et 2, ça se passe totalement sur Tokyo. Tout le film se passe sur Tokyo, et donc là, t'as vraiment ce choc entre là, le monde urbain et le monde rural, et c'est très intéressant de voir ça dans son cinéma. Et oui, et c'est ça qui est super intéressant aussi dans cette grande scène de dialogue, et c'est là où ça fait écho au titre, le mal n'existe pas, puisqu'en fait, tout le monde veut faire globalement le bien. Alors, à l'excepté du patron de l'entreprise, mais qu'on aperçoit très peu, qui est vraiment dans cette histoire de rentabilité, que ce soit l'ensemble des villageois, ils sont pas spécialement hostile au projet, ils se disent pourquoi pas, mais il faut que ce soit respectueux donc, de l'environnement, des cadres sanitaires, de toutes ces problématiques-là, et même ces deux représentants qui au début viennent en sachant que leur projet est chaotique, et ils viennent juste parce qu'ils ont besoin de récupérer des aides post-Covid, et ils vont vouloir essayer de découvrir la manière dont vivent les habitants, d'où en fait ce titre « Le mal n'existe pas », et c'est ça qui est très intéressant avec le personnage dont parlait Jérémy, c'est que c'est le mec urbain qui en a marre de sa vie à 100 à l'heure de bureau, etc., qui découvre la campagne, qui découvre en fait une sorte de nouvel Éden, et qui se met à s'extasier quand il peut couper du bois. Oui. Et en fait, il se rend pas compte à quel point c'est super insultant, c'est-à-dire que le mec bosse, donc il se casse la tête depuis ce matin à faire son travail, et lui, en fait, voit ça comme un jeu de couper du bois.
Mais je me suis quand même fait la réflexion, je me suis dit, bon, là, ça fait 5 ans que je vis à Paris, je commence à sentir une petite lassitude, je vais revoir ce film dans 5 ans, et ce film va me donner l'impulsion de me barrer.
Et donc par rapport, j'ai remarqué quelque chose par rapport au monde de la ruralité qui est confronté au monde urbain. L'urbain est très représenté par l'écran. Parce que le seul moment où tu vois le patron de l'entreprise, c'est quand il est en visio. Il y a beaucoup d'écrans. Tu n'as pas d'écran quand tu es avec les personnages qui sont issus de la campagne, mais quand des personnages qui sont issus de la ville, t'as tout le temps des écrans. Et c'est très con, hein. C'est vraiment fait par parcimonie, parce que comment ils présentent leur projet, via un vidéoprojecteur, donc écran, la visio, le portable qu'il a dans la voiture, et puis même, je crois que il a pris, je sais pas s'il a fait exprès, hein, mais il a pris exprès un modèle de bagnole où le rétro, c'est pas vraiment un miroir, c'est un écran.
J'allais dire la même chose, voilà. J'étais en mode. Mais je me suis demandé si c'était pas une incrustation juste pour cacher la caméra.
Peut-être, mais en tout cas, du coup, mais ça se fait des bagnoles où le rétro, c'est pas un miroir, mais un écran.
D'accord, mais par contre, j'ai beaucoup aimé aussi le dialogue dans la voiture qui faisait très Drive My Car, du coup, sur des problématiques de couple qui sont toutes mignonnes.
Et oui, ce que je veux dire, notamment, ça passe par un écran, c'est-à-dire qu'il reçoit une notification sur son téléphone, donc un match, alors je crois que c'est pas Tinder, mais une application de rencontre, c'est à partir de là où ça déclenche toute une conversation, en fait, bah, sur leur passé, leur vécu, et c'est ça qui est très fort avec Hamaguchi, c'est comment une petite chose, donc juste une notification, arrive à faire décrire toute l'intériorité de ces personnages.
Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, Fred, un peu ?
Vous en avez parlé un peu au début, mais du coup, ouais, effectivement, t'as le contraste entre le côté rural et urbain. Et de ce que je me rappelle, c'est que ouais, tous les plans en ville, c'est que des plans fixes, ouais. C'est ça, non ? Je crois pas qu'il y ait un moment un seul plan en mouvement. Effectivement, tout l'autre côté, donc dans la forêt, c'est vraiment mais que des travelling, des dingueries, quoi. Ça se balade partout. Donc c'était assez agréable. Je veux vivre là-bas.
Mais on analyse. Mais moi, en vrai, quand je suis ressorti du film, j'étais un petit peu déçu quand même.
Ah. Pourquoi ? Par rapport à la fin ou...
Alors ouais, la fin déjà, mais ça c'est pas vraiment la question. Non, c'est plutôt dans l'intention même globale du film, c'est-à-dire que je suis sorti de Drive My Car un peu fatigué par les 3 heures, mais j'ai quand même pas mal aimé Drive My Car. En fait, il y avait des choses qui me faisaient dire ah, c'est pas parfait, mais il y avait des éclats de génie quand même là-dedans. Mais le reproche que j'ai à faire peut-être à Drive My Car, c'est que c'est trop écrit comme film. C'est trop. Ça prend peut-être un peu trop son public pour des intellects en mode ça te sort des références à H24 sur de la littérature russe. Limite bobo quoi, c'est genre le personnage principal, sa femme, elle écrit ses scénarios en faisant l'amour quoi. Genre tu sais, ses scénarios de pièces vrai. De théâtre surviennent quand elle fait l'amour et le climax lui vient toujours au moment de la jouissance.
C'est bien.
C'est un peu grotesque. Ah. Ce que je trouve du coup à Drive My Car, c'est que c'est trop écrit.
Et c'est peut-être pas assez écrit justement.
Dans le mal n'existe pas. C'est, en fait, c'est pas écrit.
Julien le dit, c'est un film d'expérimentation. Tu justement, vois, il a voulu expérimenter. J'ai l'impression que on m'avait dit que c'était vraiment un film qui avait été fait un peu, bah, comme tu disais, ouais, c'était une commande de base de pub, c'est
de
ça.
De clip, il me de semble. Clip.
Et tu vois, je pense qu'il en a profité pour faire un film un peu expérimental, mais c'est pas un gros film comme Drive My Car où là, il a vraiment mis du temps dessus. Quoi.
C'est ça. Bah justement, avec cet éclairage-là, ça explique l'intention.
C'est ça.
Et je la comprends, mais. Voilà, moi quand j'ai commencé le film et que j'ai vu ces 20 minutes quasiment silencieuses.
Moi j'ai adoré, ça fait du bien en fait. T'arrives dans une salle et t'as vu Drive My Car, c'est que de la parole. Et puis là, ouais. T'as un moment mais très silencieux, c'est agréable en vrai.
Ouais,
de passer de l'un à l'autre en vrai. Finalement.
Ouais, mais enfin, c'est
curieux. Tu l'avais vu la veille, je crois, Drive My Car.
Juste la veille, tu vois.
Et c'est super bien. Tu regardes un film hyper parlant et tu vas voir un film au cinéma et c'est hyper silencieux. Ça. Moi je pense que c'est intéressant.
D'ailleurs, pendant notre séance, je me souviens qu'il y avait une personne à notre droite qui a fait. Et sa personne à gauche fait. Toi, tu m'as regardé, tu fais.
Ah, j'étais, ouais, j'avais.
Et moi, j'ai fait.
Moi, j'ai deux personnes qui se sont barrées de la salle.
Ah, quand même.
Ouais. Non, mais c'est cool. Voilà. C'est cool de voir des films un peu silencieux, des fois, on a besoin.
Mais la fin, parce que. Oui, attention, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Le Mal n'existe pas. Si vous êtes à 5 minutes d'entrer dans votre séance, vous écoutez DCP juste avant, mettez en pause. Non, la fin, elle a été sujette à. Enfin, elle est sujette à plein d'interprétations
c'est
possibles.
Ça, moi, j'ai pas vu une question, j'étais fatigué, j'ai pas.
Parce qu'en plus, elle est très brutale, c'est-à-dire que t'es dans le film, ouais. Et d'un coup d'un seul, ça arrive et c'est terminé.
Et ça devient très surréaliste, très.
Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est la fameuse bascule dans le thriller, mais. Vous en pensez quoi de la fin ? Ça vous évoque quoi ?
Alors pour moi, elle entame une sorte d'arc narratif de finale qui, pour pas trop spoiler, concerne la petite gamine. Et en fait, moi, la gamine, je l'aimais pas du tout.
Genre, pas les gamins dans les films.
Ah non, mais genre, je veux dire, la gamine, les seules fois où tu la vois interagir, c'est elle tape dans le dos de son père, elle fait « Tu es nul ! Tu es nul !» Et t'es là en mode « Mais petite conne, arrête, quoi !» Du coup, quand il est question de cette gamine-là, et surtout c'est odieux. Mais du coup, j'étais en mode, bah ouais, mais en fait, gamine, le film m'a pas aidé à l'apprécier, tu vois, donc quelque part...
Non mais là, moi, je pensais plus à la symbolique du cerf, parce qu'ils en parlent beaucoup avec le père pendant tout ce film. Ah, oui. Les cerfs, ils vont partir, les cerfs, nanana... Moi, je sais pas, j'ai du mal avec le symbolique, je sais pas trop où en penser à chaque fois.
Moi, c'est le destin du personnage dont on parle depuis tout à l'heure, là, du coup, qui est un peu le personnage principal, ce représentant qui veut, enfin, urbain, qui veut venir rural.
Bah, j'ai l'impression qu'il. Bah, du coup, on
son
peut dire,
destin,
on spoil.
Son destin me
bah, c'est qu'un peu
chagrine.
Genre, parce qu'à un moment, j'ai l'impression que donc, le personnage principal, c'est qui ? Comment il s'appelle déjà ?
Takumi.
Caca.
Takumi. Il le rejette un peu, en fait. Il comprend que le mec, il est un peu dans une idylle de la campagne. Dans Riyadh, coupe du bois, c'est trop marrant, j'en vive là. Et le fait, ce qu'il fait avec ce mec, c'est un peu genre, ferme ta gueule.
C'est vrai qu'en plus, il y a ce moment-là où, du coup, le représentant rural vient voir Takumi, lui dit, ça te dirait de faire gardien ? Et lui, il répond, mais t'as l'impression que je glande ?
Ouais, tu vois, il y a un peu cette haine, en fait, qui existe quand même entre la ruralité et l'urbanité, et c'est juste dans l'action qu'il y a à faire, c'est ça. Alors c'est...
Mais je pense que pour interpréter, enfin, je pense que tu peux l'interpréter de plein de façons, mais justement, t'as toute cette idée du cerf, à un moment, on lui demande, est-ce qu'ils veulent construire justement. donc le camping, il dit faudra faire attention si vous vous mettez au milieu, c'est là où passent les cerfs, donc il faudra mettre une clôture, etc. Donc déjà toute cette idée de clôturer les cerfs, donc vraiment de museler la campagne, de museler cet endroit rural, et notamment t'as justement la fille qui demande mais est-ce que les cerfs attaquent? Et Takumi répond que non, ils attaquent que si on les attaque en premier.
Ah,
et
mais oui.
Ce qui est intéressant, c'est que le moment où tu arrives à la fin, donc tu as cette confrontation entre le cerf et sa fille, et donc en fait le cerf, on ne sait pas ce qui se passe, où ça va être cuté. Tu as un plan où tu penses que le cerf va attaquer la fille, donc le représentant veut y aller pour la défendre. C'est le moment où Takumi le prend et c'est une tentative d'assassinat. Mais en fait, tu pourrais l'interpréter, c'est-à-dire qu'en fait, le cerf, ça représente cette ruralité, ça représente cette réalité. Pourquoi le cerf attaque ? Il attaque en représailles et du coup, le cerf, c'est Takumi et la petite fille, ça devient le représentant. Voilà. Et après, tu peux l'interpréter de plein des façons, parce que est-ce que ce plan, il est en direct, c'est le cerf qui attaque la petite fille et du coup ensuite il attaque le représentant, il s'en va avec sa petite fille, ou est-ce que sa petite fille, en fait, elle avait déjà été attaquée par le cerf avant? C'est très dur de comprendre pas, parce que tu vois le cerf qui saigne, donc il aurait été tiré, on aurait tiré dessus par un chasseur. T'as le motif du son qui revient avec la collègue justement
qui s'est coupée
sur une rose. Donc tu peux l'interpréter de bien des façons. D'autant qu'on sait, le mec se relève à la fin.
Oui, il est même pas mort.
Donc c'est plus, on pourrait voir ça comme une sorte d'opposition de, en fait, la réconciliation n'est pas possible.
Ouais.
Parce que le mal n'existe pas, c'est-à-dire qu'il le fait pour se protéger lui-même. Wow. Cette agression.
T'es trop fort. Non, mais du coup, ça me fait poser une question par rapport à Magouchi. Est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs japonais contemporains qui font autant parler d'eux, en tout cas côté festival?
Celui qui avait fait Onoda.
Après, c'est une production française.
C'est Arthur Harari qui
c'est français.
Non, mais tu vas. Vous allez peut-être m'aider sur le nom, celui qui avait fait.
Koreeda.
Koreeda, pardon.
Ah,
c'est
oui.
Bien ça.
Oui, oui, je
qui
vois.
Qui a sorti un film très récemment, mais qui a pas fait énormément de bruit d'ailleurs.
Attends, mais Koreeda, c'est pas coréen ça?
Il me semble que c'est japonais.
Koreeda, il est japonais, il me semble. Si
Hirokazu
Koreeda.
Ah oui, non, vous avez raison, excusez-moi. Il a fait une affaire de famille.
Une affaire de famille.
Il a eu la Palme d'Or, je crois, non, c'est ça.
C'est ça.
Ah, l'innocence.
Le dernier.
J'étais persuadé qu'une affaire de famille c'était coréen. Pourtant, je l'ai vu le film. Hein.
Et ben non, c'était japonais.
Voilà. Donc oui, bah il y a lui et donc tu as Magouchi depuis quelques temps. Mais c'est vrai que j'ai pas là vraiment contemporain de réalisateurs japonais qui me reviennent, qui me viennent à l'esprit.
Ceci dit, je vois Koreeda, il a 61 ans, alors que Amaguchi, lui, il est dans sa quarantaine, par exemple. Donc là, on a vraiment un réalisateur japonais qui est amené à avoir une carrière encore longue. Mais justement, genre, là, le cinéma japonais, nous, on le connaît beaucoup via Takeshi Kitano, via Battle Royale, mais ça, c'est des anciens réalisateurs ou qui sont morts déjà, tu vois. Et justement, ces réalisateurs-là, nouveaux, qui exportent le cinéma japonais autre que l'animation japonaise, qui est quand même un circuit à part, il n'y en a pas beaucoup, et j'ai l'impression qu'Amaguchi, c'est quand même le porte-étendard, on va dire, à l'international. Je ne sais pas ce qu'il en est du cinéma japonais intramuros.
En tout cas, je suis hyper curieux, j'ai trop envie de voir Drive My Car, tous ces autres films, vraiment.
Mais regarde-le.
Moi, je suis content d'avoir commencé par ce film, en vrai, moi j'ai kiffé. Hein, vraiment,
ouais. Je suis très curieux de voir.
Mais du coup, les autres films, c'est beaucoup de la parole, c'est ça? Tous les autres films, c'est vraiment porté sur le dialogue.
Asako, je sais que j'avais vu Asako, c'est beaucoup de dialogue, mais Asako, c'est super intéressant parce qu'il questionne, c'est la question du double en fait. C'est-à-dire que Asako, donc c'est la fille du film.
Ouais.
Alors, je suis désolé, mais je retiens pas tous les noms japonais. Donc en gros, elle est amoureuse d'une personne. Et le début d'Asako, c'est une histoire d'amour, mais ça dure 15 minutes en fait. Et en fait, cette personne part, elle ne revoit plus jamais. Et donc, tu as une ellipse de genre quelques années. Et elle rencontre par hasard une personne qui il le ressemble trait pour trait, sauf que c'est pas la même personne. Sauf qu'au bout d'un moment, cette première amour qu'on découvre au début du film revient et en fait elle est confrontée à deux doubles.
C'est Vertigo en fait.
Ou dans l'idée du double, oui, sauf que Vertigo c'est une même personne. Ouais. Là t'as vraiment deux personnes différentes qui se ressemblent.
Ok, intéressant. Est-ce qu'on clôt le débat sur le mal n'existe pas?
Allez le voir pour l'expérimentation, mais toi tu penses que Drive My Car est vraiment plus...
Bah c'est pas le plus accessible non plus parce que ça dure 3 heures, tu vois. Donc,
pas grave.
À la limite, je dirais presque, enfin, je les ai pas vus du coup, mais Asako, ça peut-être être
Asako,
une bonne
Asako, il me semble que c'est 2 heures.
Ouais. Mais en tout cas, Amaguchi, je pense qu'à l'avenir, ce sera un réalisateur à suivre qui sera très
après,
intéressant.
Après, il y a Sense. Je sais pas si Sense ou Sensei, je sais pas comment on le prononce. Mais il dure, ça a été coupé, donc on en parlait avec Jérémy juste avant, ça a été coupé en plusieurs parties.
Ça a été coupé en 5 parties parce que les 5 sens, mais ouais.
Oui, et surtout parce que ça dure plus de 300 minutes tout cumulé.
Est-ce que le mal se trouve dans les chiffres, en tout cas, Jérém?
Ça dépend si vous avez apprécié le film ou pas, parce que bon, le budget, je l'ai pas trouvé encore une fois, parce que les films étrangers, c'est genre japonais, etc. C'est un peu compliqué de trouver les budgets. En tout cas, au cumul mondial, actuellement, il est à 456 437 $ de recettes exactement. Et pour le premier jour en France, qui était donc le 10 avril, Il a fait 11 333 entrées. C'était le 7e des sorties du jour derrière, entre autres, le SOS Fantôme, Nous les Leroy, La Malédiction de l'Origine ou encore même la ressortie des Choristes.
Ah,
dur.
C'est bien les Choristes, hein, mais bon, Hamaguchi c'est mieux. Finito sur, sur les chiffres de Hamaguchi.
Enfin, sur les chiffres du mal n'existe pas, oui.
Ok, eh ben écoutez, la première partie de DCP est terminée, on passe à la deuxième partie. On enchaîne avec les chiffres. On va revenir sur les frères Cohen. Et Jérémy va donc nous parler des chiffres des Cohen.
Et oui, puisque à la vue des films qu'on a traités, je me suis dit que j'allais me pencher sur les chiffres d'un duo de réalisateurs dont j'ai vu des films, mais dont la carrière en globalité m'intéresse pas tant que ça. C'est pourquoi je vous propose un petit retour en chiffres sur la carrière cinématographique des frères Cohen. Donc tous les films vont être pris en compte, même ceux réalisés du coup en solo par chacun des frères, même s'il n'y en a que deux techniquement. Donc les frères Cohen, c'est 40 ans de carrière depuis leur premier film 100% ou Blood Simple en VO sorti en 84. C'est 20 films à leur actif, 18 ensemble et un chacun en solo comme je l'ai dit. Donc The Tragedy of Macbeth pour Joel et Drive Away Dolls dont on vient de parler pour Ethan. Si vous voulez vous faire un marathon des films de Joel et Ethan Cohen, il va falloir 2143 minutes, soit 35h43, soit une journée et demie, une bonne journée et demie quoi. Le film le plus court de leur filmographie, et bah c'est Drive Away Dolls qui dure sa petite heure 24. Et le film le plus long, c'est La Ballade de Buster Scruggs avec ses 2h13. Et en moyenne, un film des frères Cohen, c'est 1h47. 4, c'est le nombre de fois où les frères Cohen ont sorti au moins un film par an à la suite. Donc en 90-91 avec Miller's Crossing et Barton Things, en 2000 et 2001 avec O Brother et The Barber, en 2003 et 2004 avec Intolérable Cruauté et Lady Killers, et enfin le combo entre 2007 et 2010 avec No Country for Old Men, Burn After Reading, A Serious Man et True Grit.
Ça bossait.
Ça bossait, ça charbonnait dur. Ensuite, si on prend les notes IMDB, leurs films, au pluriel, les mieux notés, ce sont Fargo, The Big Lebowski et No Country for Old Men avec une moyenne de 8,1 sur 10. Et le film le moins bien noté, et bah c'est Drive Away Dolls avec ses 5,6 sur 10. Et en moyenne, les frères Cohen, c'est 7,25 sur 10 sur leur film sur IMDb. Quel budget alloue-t-on à ce duo? Bah, leur plus petit budget, comme souvent c'est pour leur premier film, 1,5 million de dollars. Et le plus gros budget qu'ils ont eu, c'était 60 millions de dollars pour Intolérable Cruauté. Et en moyenne, un film des frères Cohen, c'est à peu près 21 millions de budget, ce qui est pas énorme.
Ce qui est modeste en soi.
Ce qui est très modeste hein, quand même. Parlons box-office maintenant. Joel et Ethan n'ont atteint qu'une seule fois les 100 millions de dollars de recettes aux USA. C'était pour True Grit, ayant récolté 171 millions. Et niveau mondial, c'est également True Grit qui a engrangé le plus de recettes avec plus de 252 millions de dollars. Ils ont atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales sur 4 de leurs films, soit même pas un quart de leur filmographie. Et l'ensemble de leurs recettes mondiales s'élève à près de 1,1 milliard de dollars de recettes, avec en moyenne 64 millions de dollars de recettes mondiales. Et puisqu'en France on n'aime pas faire comme tout le monde, bah c'est pas True Grit qui a fait le plus d'entrées, mais bien O Brother avec 1 499 393 entrées. Et à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées en France, c'est Miller's Crossing avec 141 518 entrées. 5 de leurs films ont dépassé le million d'entrées en France, et au total, c'est 13 millions d'entrées en France, les films Cohen, avec une moyenne de 712 000 entrées. On va passer à nos chiffres.
Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression quand même que les frères Cohen, c'est des films giga cultes, et que tout le monde a vu, genre Fargo. Mais finalement, quand tu regardes les chiffres et les stats, et même quand on va voir nos chiffres à nous, alors, il manque quand même beaucoup de Cohen.
J'en ai pas du tout vu, moi, tu vois pas beaucoup.
Alors passons sur nos chiffres de la filmographie des frères Cohen. Donc au nombre de films vus des frères Cohen, je suis le plus haut avec 7 films. Fred est juste derrière à 6, Owen juste derrière Fred à 5, et Julien ne s'intéresse pas du tout à leur filmographie puisqu'il n'est qu'à 2.
Oui, je suis mauvais élève.
T'as vu Drive Away
et Fargo. Mais même Fargo, j'avais pas grandement apprécié. Donc
Fargo, il m'a fallu du temps pour l'apprécier. Et même encore aujourd'hui, je me considère pas comme un gars qui aime particulièrement Fargo.
Du coup, si tu veux, j'ai pas des très bonnes expériences avec les Cohen. Donc j'aime. Et de même, c'est pas un cinéma qui m'intéresse énormément. Mmh. Alors il y aura bien The Big Lebowski et No Country for Old Men qu'il faudrait que je regarde. Mais
je déteste The Big Lebowski.
Ah, je me suis fait chier. Hein.
Alors voilà, bah, vous êtes la troisième. Deux, trois deuxième personnes qui disent qu'ils aiment pas The Big Lebowski, donc ça me donne pas envie de le voir.
Je comprends pas du tout.
Ensuite, bah deux films du duo ont été vus par tous, bah les deux qu'a vu Julien, Drive Away Dolls bien sûr, parce qu'on vient d'en parler, et Fargo. Mmh. Et à contrario, 12 films ont été vus par personne des frères Cohen, dont notamment Arizona Junior, Barton Things, O Brother ou encore Inside Llewyn Davis.
Celui-là a l'air trop bien. J'ai pas l'impression que c'est un film de Cohen. Quand j'ai vu ce film, j'avais pas l'impression que c'était un film des frères Cohen.
Mais c'est Barton Things, par contre, moi je m'en veux toujours, j'ai toujours pas vu.
À savoir que je suis le seul à avoir vu un film des frères Cohen que personne d'autre n'a vu, avec César.
Bah les couilles.
Dont j'ai pas de souvenir, donc comme quoi.
Pas les couilles.
Voilà. Et pareil, un seul film n'a pas été vu que par une seule personne autour de la table. Sans surprise, c'est Julien qui est le seul à ne pas avoir vu No Country for Old Men.
qui est mon préféré.
Que tu devrais adorer. Pour
c'est
le
vraiment lui, par moi, contre, c'est rien à dire.
Moi, je l'ai vu récemment et j'ai été vraiment mais marqué par les courses poursuites, comment c'est super bien monté, comment t'es pris dedans, mais c'est incroyable.
Et l'absence de musique.
Ouais, mais c'est génial. Ça, ce film, vraiment, voilà.
Voilà, c'était les chiffres globaux et nos chiffres sur la carrière des frères Cohen.
Non, mais voilà, No Country for Old Men, vraiment, course poursuite, j'étais, mais c'est incroyable. Comment t'es pris dedans.
C'est ouf.
Le mec, en fait, il essaie toujours d'avoir une avance sur l'autre mec qui poursuit. Et t'es en mode, mais c'est incroyable, j'ai adoré.
Voilà.
Trop bien.
Eh bien, messieurs, je vais retenter de vous faire deviner l'histoire d'un artiste.
Joey Pesci.
Non.
Attends, il a dit Joel Pesci.
Joey.
C'est Joe Pesci, mais bon.
Ah, c'est pas Joey.
Non, c'est Joe Pesci.
C'est vraiment Joe Pesci.
Non, je t'ai
dommage. Ça aurait été marrant.
Ça aurait été marrant, mais non. Cette fois-ci, donc, encore un acteur, mais avec un parcours un peu
pas
plus...
Pas une actrice.
Non.
Misogyne encore.
Non, mais parce que celui-là, il a un parcours un peu atypique. Je savais qu'il avait un parcours atypique, alors je me suis dit,
okay.
Celui-là, ils l'auront pas. C'est l'histoire d'un garçon qui est né à Chicago. Sa mère est actrice de radio et son père directeur publicitaire. Avec son frère Terence, ils grandissent dans une famille de classe moyenne, catholique et démocrate. C'était un élève moyen qui ne faisait pas beaucoup d'efforts et qui était très souvent absent en cours. Et il y tente quelques prestations publiques en étant la voix de la radio à son collège. Sous la pression de ses parents, il étudie la littérature, l'anglais et la philosophie. Mais en troisième année, il décide de prendre des cours d'art dramatique en pensant pouvoir gratter quelques bonnes notes. Sauf qu'en fait, il s'est tellement pas pointé au cours qu'il ne sera pas diplômé. C'est pendant ses cours d'art dramatique justement qu'il se dit « Tiens, je vais faire acteur ». Donc il décide d'envoyer chez le monde et comme toutes les personnes qui veulent devenir acteur, il part.
Los Angeles.
Yeah. Une fois sur place, ça ne fonctionne pas des masses. À cette même période, il est victime d'un accident de voiture qui manque de le tuer mais qui lui laisse une petite cicatrice au menton.
Je l'ai.
Durant cette période, il signe un contrat avec Columbia Pictures qui lui donne des petits rôles pour lesquels il n'est même pas crédité. Contrat qui sera plus tard rompu sous prétexte qu'il n'a pas assez de charisme. Ouais, ça marche toujours pas et un jour, il fait des travaux sur sa maison et se dit « Bon, si je devenais charpentier ».
Je crois qu'on l'a tous.
Et merde.
Ah, je crois que je l'ai pas en fait.
Ouais. si, moi je l'ai.
Et voilà, notre star renonce à devenir un acteur et devient menuisier pour quelques studios. À cette période, il fait même la rencontre de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Pour l'anecdote, Demy voulait lui confier le premier rôle dans son film Model Shop. Son premier film tourné aux States. Mais les producteurs étaient pas chauds, du coup ils ont engagé quelqu'un d'autre à son insu. Des décennies plus tard d'ailleurs, Varda le fera apparaître dans le documentaire Les plages d'Agnès. Ouais, Julien et Jérém l'ont
dit. Moi, je veux savoir à qui prête penser.
Ah,
parce
non,
que
moi, je suis totalement au cinéma content. Enfin,
vas-y,
tu
pensais à qui?
En fait, t'as des cicatrices là, j'ai pensé à Miles Teller.
Ah non, pas là, rien du tout.
Pas du tout, genre. Je l'ai pas là.
Notre star devient pote avec pas mal de gens du cinéma. Et parmi toutes ces personnes, il se retrouve à faire les travaux dans la baraque d'un jeune réalisateur encore peu connu.
Qui est?
Un certain.
George Lucas.
Et voilà. Oui. Lucas lui propose alors un rôle dans American Graffiti et ça relance sa flamme d'acteur. À la fin du tournage, notre star décide de poursuivre sa carrière de charpentier tout en faisant quelques petits rôles.
Je sais pas, moi, Bruce Willis.
Non.
Harrison Ford.
Et voilà, Harrison Ford. Mais j'ai pas fini.
Parce qu'il
reste pote avec Lucas, si bien que Lucas fait appel à lui durant des castings pour donner la réplique aux acteurs pour le rôle d'un certain Han Solo.
Voilà, Harrison Ford.
Voilà, bien joué.
Ouais, trop chaud.
Et finalement, Lucas se rend compte que le plus apte à incarner ce rôle, bah, c'est son pote charpentier. Alors c'est ainsi qu'à 30 ans, Harrison Ford touche enfin la célébrité avec son rôle de Han Solo dans Star Wars. C'était Harrison Ford. Vous l'avez eu tôt, bande de bâtards.
Non mais moi, c'est la cicatrice, hein, je l'ai eu.
Mais c'est marrant,
il y a plein d'acteurs avec des cicatrices.
Ouais, il y en a. Hein.
Et tu sais pourquoi? Parce que dans Indiana Jones 3, il en fait quelque chose de...
J'y pensais, c'est super bien. C'est très intelligent ce qui est fait dans Indiana Jones 3, justement.
Je me souviens plus.
Je laisse Jérémy raconter.
Parce que la scène d'intro d'Indiana Jones 3, donc c'est une scène où Indiana Jones, il est jeune.
Oui.
Et donc, pour qu'il ait sa cicatrice, il intègre ça dans la scène d'introduction. Steven Spielberg intègre ça dans le fait qu'il reçoit un coup de fouet sous la lèvre, en fait. Mm. Pour qu'après ça matche avec Harrison Ford.
D'ailleurs, c'est River Phoenix qui joue le jeune Harrison Ford.
Oui, mais c'est vrai que j'avais jamais.
Mais elle est connue l'histoire de
la cicatrice.
Quand tu m'as dit charpentier, j'étais sûr. Ouais. C'est connu.
Ah ouais.
Ouais.
Mais je trouve ça comme histoire vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'il avait renoncé à sa carrière d'acteur pour faire charpentier, et que la voix du charpentier l'a remis sur la voie de l'acting.
C'est peut-être des scénaristes qui ont renoncé à leur voix en devenant croque-mort et qui vont redevenir scénariste à 35 ans, genre, tu vois.
Inch'Allah. Mais je sais pas, faudrait peut-être que j'aille faire ça à Los Angeles.
Faut que tu partes comme ça.
Imagine, je vais à Los Angeles.
Mais ça, c'était à l'époque. C'était genre. L'époque, c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est moins.
Ah, je sais pas.
J'ai l'impression que tu peux moins rentrer dans les trucs comme ça, genre
ah bah y... Je vais faire croque-mort à Los Angeles, mec.
Ouais.
Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, tu rencontres tout le
monde. Tu rencontres des célébrités, tu parles, ils sont en mode « Oh, je connais un croque-mort, il peut jouer dans ce film ou des croque-morts. »
Il a du charisme.
Il écrit des scénarios et tout.
Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire de, ouais, de Harrison Ford.
Ouais.
Je tenterai d'évoluer un peu vers d'autres histoires, vers d'autres rubriques, tout en vous faisant jouer. Ainsi se concluent les jeux, et on passe à la carte Joker. Qui est mienne.
Cui, 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 cui.
Oui, je trouve ça grave mignon. On est en train d'enregistrer un samedi, je rappelle, et on a des petits oiseaux qui font cui, 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 cui.
Et on a un très beau soleil derrière nous, le ouais, ciel est bleu, les arbres sont verts, c'est le printemps.
Et voilà, on va boire un spritz.
On va manger après, c'est fou.
Ah oui, ok.
Mais avant, Joker.
Le Joker.
J'ai bien aimé le fait que Fred nous fasse un petit peu, nous pousse à aller voir des films, en fait, avec son ouais, Joker. Je trouve que c'est une très bonne initiative de voilà, nous inciter à voir des films, même si on le fait déjà pas mal pour les critiques. Et justement, je pense qu'il nous arrive tous de détester viscéralement un film et d'y réfléchir un petit peu après, mais ça peut être des quelques heures après, des semaines, des mois, des années, et de remettre un peu en question son impression initiale. Est-ce que ça vous est arrivé, voilà, de voir des films, d'y réfléchir des années après et vous dire... Est-ce que c'était vraiment si nul que ça? Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je le rematte?
Ouais.
Alors?
Non, ça m'est déjà arrivé ouais, pour plusieurs films, bah alors que j'ai toujours pas revu. Hein.
Bah justement!
D'où le point que tu veux en venir, je pense.
Sans doute.
Il y a beaucoup de films où je me dis, faut que je le reconsidère. Faudrait peut-être que je le revoie pour le reconsidérer parce que je les ai vus. Soit dans un mood où je devais pas voir le film, soit j'étais trop borné à l'époque, parce que quand parfois quand tu regardes un film et que t'as ton avis bien tranché et que tu veux pas encore le faire évoluer, bah voilà, il bouge pas. Et donc du coup, ouais, et le premier film qui me vient à l'esprit en pensant à ça, c'est Mother d'Aronofsky.
Ah oui.
Parce que je sais que Fred, tu adores ce
film. Ah, j'ai trop aimé Mother.
Et que moi, je le déteste, mais viscéralement.
Pourquoi tu l'aimes pas?
Je sais pas, enfin, quand je l'ai vu sur le moment, le film, je me suis dit, putain, tu veux dire trop de trucs, c'est... À la fois c'est évident, mais à la fois c'est super mal branlé.
Après Aronofsky, tous ses films, c'est genre hyper, il jette tout à la gueule, quoi. Enfin, tu vois, il passe pas par des petits subterfuges. Et donc Mother, c'est vraiment ça, son film où vraiment le mec il utilise des symboliques, mais c'est hyper évident.
C'est ça. Donc du coup, pour moi, c'était, il y avait un tout. Et Mother, ça fait partie de ces films que j'ai envie de revoir pour le reconsidérer. Mais je pense aussi à Fight Club, qu'on m'a trop sur, que j'estime qu'on m'a trop survendu et que potentiellement je l'ai pas apprécié à sa juste valeur aussi.
Après Fight Club, c'est hyper content. Enfin, il y a autant de gens qui détestent Fight Club que de gens qui adorent Fight Club là pour le coup.
C'est ça.
Que Mother, bah après peut-être t'as pas aimé parce que Aronofsky quoi. Mais est-ce que t'as aimé d'autres films de lui?
Bah, j'aime bien Requiem for a Dream.
Tu vois? Mais non, moi Mother, j'ai après c'est un film coup de poing quoi. Et c'est effectivement c'est évident, c'est un film genre.
Et j'adore Black Swan.
Non mais revois le plus ouais en disant bah c'est évident et let's go quoi. Alors moi, attendez je
moi j'en avais j'en ai un par exemple mais ça c'est des expériences débiles de mon lycée. Je louais des DVD à la médiathèque de chez moi et du coup je voulais voir M le maudit et j'ai loué un DVD de M le maudit en pensant que c'était le M le maudit de Fritz Lang. Et en fait je suis tombé sur la version le remake américain des années 50. Et rien que le fait de me dire « Ah putain, enculé, c'est un film américain !» En fait, j'étais énervé. Et du coup, j'ai pas du tout aimé le film, quoi. Parce que j'étais en mode « Pourquoi ça parle pas allemand? Je comprends pas, tu vois. » Pourtant, je lis des critiques à droite à gauche que, bon, le film est un peu tombé dans l'oubli, mais c'est quand même un bon remake. Et en attendant, j'ai toujours pas vu le vrai M le maudit. Mais du coup, je me dis « Il faudrait peut-être que je retente, que je lui redonne une chance à ce pauvre film. » Parce que, bon, je l'ai quand même bien insulté pour pas grand-chose.
Moi, j'ai une expérience de salle. C'était « J'avais vu Cri chuchotement ».
Ouais.
De Bergman, j'ai trouvé le voir, tu vois, en plus ouais, il est assez connu.
Bah oui.
Je vais au cinéma, à la Filmothèque, je crois. Et en fait, pendant tout le film, il y avait un vieux juste à côté de moi qui était bizarre, qui arrêtait pas de chuchoter et de réagir au film. Et il faisait genre, oh putain, oh mon dieu, oh du sang sur son vagin. Un truc comme ça, tu vois. Et en fait, tout, ce mec m'a cassé les couilles. Mais genre, vraiment, tout le film faisait, oh mon dieu. Et il réagissait à tout. Et du coup, j'ai pas regardé le film. J'en pouvais plus. Genre.
C'est triste.
Et du coup, j'aimerais beaucoup revoir Cri chuchotement. Parce que je sais que ce film est incroyable, mais j'arrivais pas à rentrer dedans parce que le mec arrêtait pas de tout commenter.
Ok, donc retent de crime. Cri chuchotement.
Cri chuchotement, ouais. De Bergman, j'aimerais bien, tu vois. Mais après, ouais, c'est pas vraiment dans ce que tu as demandé. C'est plus vraiment un film que t'as pas aimé.
Oui.
T'aimerais redécouvrir.
Mais après, pour moi, ça rentre quand même là-dedans, tu vois. Genre, c'est parce que.
Je vois Julien, il est hyper stressé en mode. Ok, quel est le film que j'ai pas aimé? Parce que j'ai tout aimé, moi.
Pareil, moi je viens de repenser à un truc, mais est-ce que je redonne une chance à Boys Afraid aussi, tu vois?
Ouais, de ouf, mais ouais, vraiment.
Mais j'ai pas envie de me retaper 3 heures de Boys Afraid tout de suite, tu vois.
Vas-y, vraiment en disant, ok, c'est un truc vraiment, mais totalement, mais abusé. Tu vas le voir avec des amis, tu rigoles. Moi, j'ai passé un
Je l'ai vu avec un ami et l'ami a pas aimé non
mais
plus.
En fait, je crois que vous avez trop vu en mode sérieux, genre en mode je vais voir un film de Ari Aster. Parce que vous étiez habitué à voir Midsommar, Boys of Fred, quoi, qui sont quand même des bons films. Et là, vous étiez allé voir en mode waouh, c'est le nouveau film de Ari Aster avec Joaquin Phoenix et tout. Les gars,
moi je suis pas un bon fan de Joaquin Phoenix.
Déconnectez vos cerveaux, regardez Boys of Fred, rigolez aux grosses couilles de Joaquin Phoenix, et voilà, genre merde, non.
Faudrait que tu sois là pour faire l'audio description parce que c'est très drôle quand tu le fais. Donc,
Non, mais c'était un film trop, c'était génial. Voilà un film que j'aimerais beaucoup aimer, que j'ai vu avec Owen, et qui est un classique du cinéma d'horreur, mais qui est assez peu connu, enfin en même temps qui est très connu, c'est Don't Look Now, oui. Ne te retourne pas.
Bah, je l'ai eu sous les yeux aussi.
Et ce film, on l'avait vu avec Owen, on avait vraiment détesté, ouais. Et en fait, en relisant des trucs dessus, ça a l'air, c'est génial en fait.
Non, j'ai pas envie de retenter.
C'est réalisé par qui ça?
C'est Nicolas Roeg.
Nicolas Roeg, ouais.
Et c'est un film d'horreur hyper connu des années 70, où en fait, t'as des parents qui perdent leur enfant et qui vont ensuite... À Venise, qui ont un peu des flashs,
des
un délire du passé qui revient dans le voilà. Et c'est super bien en fait. En fait, en y repensant, il y a quand même des trucs cool.
Bah, il y a des trucs cool, mais je sais pas, j'étais pas dedans.
Donc là, ouais.
Julien, toi, dans tout ça.
Alors, déjà, je m'excuse de mon silence, mais j'étais en pleine réflexion hein, pour trouver un film. J'ai réussi à en choper trois.
Vas-y.
Le premier, c'était. Alors, c'est Cemetery of Splendor.
Ah oui.
De Warash et Cool. Ouais.
Attends, j'ai pas compris du coup.
Cemetery of Splendor de Happy
Chapong
Where Are They Cool.
Ah bah oui.
Alors ce genre de film, j'avais vraiment détesté. On l'avait dû le voir dans le cadre des cours. Je l'avais vu en deux parties parce que je supportais pas le film. C'est d'une lenteur. Et pourtant, c'est un film contemplatif. Et depuis, j'aime bien le cinéma contemplatif. Problème, donc je l'ai pas aimé, mais j'ai pas spécialement envie de le revoir. Du coup, j'ai deux autres films en tête qui, là, j'ai pas autant détesté. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça moyen. Mais que j'aimerais bien revoir. Premier, il y a Conan le Barbare.
Oui.
Alors Conan, j'ai trouvé ça très kitsch, très années 80, très surfait, très mal joué. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi le charme qui fait Conan le Barbare, en fait, en termes de mise en avant du corps de Schwarzenegger comme un élément totalement improbable, en fait.
T'as lu Adrien Desnouettes et tu veux revoir Conan.
Bah, disons que j'ai lu le Momsilovitch sur le prodige d'Arnold Schwarzenegger, et du coup c'est vrai que ça m'a donné envie de revoir ce film. Et dans le même type de film que je trouve très kitsch, du coup j'avais trouvé très moyen, le premier Evil Dead de Sam Raimi.
J'ai pas vu il y a pas longtemps.
Ouais, et puis j'ai adoré.
Bah c'est ça, et je me dis en vrai, bah depuis le temps, c'est le genre de film où en fait c'est deux types de films, c'est ce genre de film où tu sais que ça a beaucoup de défauts, c'est très kitsch, mais en même temps tu peux réussir à trouver justement leur force dedans.
Tu veux voir le 2 plutôt en vrai finalement. Tu l'as vu le 2?
Non, justement, j'ai vu que le 1. Et je sais que le 2, ça assume totalement son côté kitsch, mais pas le premier. Mais en même temps, le premier, de souvenir, j'aimais beaucoup le culot de Sam Raimi, en fait. D'arriver avec très peu de choses et de sortir ça. Donc voilà, soit Conan, soit le Evil Dead.
Je voulais demander à Owen, déjà, t'avais pensé quoi d'Evil Dead 2? Parce que du coup, t'avais eu.
En fait, c'est marrant parce que j'ai préféré, je crois, le Evil Dead 1. Parce que justement, le 2 allait peut-être un peu trop loin. Mais dans le sens où. Dans un sens un petit peu redondant.
Oui.
Je saurais pas trop l'expliquer
parce que. Mais le 2, il va beaucoup plus loin. Et en plus, du coup, ce qui est bien avec le 2, c'est qu'il te résume le 1. Enfin, il te refait le 1 en 15 minutes, au tout début. Et après, il te lance le 2.
Ouais, mais pour une raison quelconque, je trouvais que le 1 presque plus spontané. Et du coup, ce côté neuneux spontané me parle un peu plus que le côté forceps du 2.
Mais j'ai pas vu le 1, du coup, je sais pas s'il y a, tu vois, ces plans séquences incroyables qui vont dans toute la maison, ou est-ce que t'as ça aussi dans le 1? C'est incroyable, la prouesse technique du 2, où t'as une caméra qui va dans des coins de meubles, enfin vraiment le truc, mais c'est incroyable, genre vraiment. Ouais, le 2. Ouais. Le 2.
Mais t'allais dire un truc?
Un autre film, moi.
Vas-y.
Tu parlais de films contemplatifs, moi j'avais vu un film il y a 2-3 ans, j'avais détesté, en y repensant, il était incroyable, c'était Âme en Rayeu. Je sais pas si vous voyez, il est passé au MK2, mais très rapidement.
Ça ne me dit rien.
C'est un film de Tyler Taormina. La nostalgie, c'était. Ah non, c'était américain. Et en fait, l'histoire, c'était des jeunes qui passaient une sorte de test pour savoir s'ils allaient pouvoir rentrer dans la vie adulte. Donc c'est très symbolique, c'est un peu chelou. Et en fait, bah. Tout un processus, une sorte de rituel où tu les vois genre passer par des endroits où ils doivent manger des burgers, bon, très très bizarre, et à la fin en fait t'as les abandonnés, t'as les gens qui ne peuvent pas partir de cette ville un peu américaine, un peu chelou, et qui sont un peu abandonnés, qui commencent à devenir SDF, enfin c'est vraiment un film trop bizarre, hyper contemplatif, et je vous conseille ce film, Amon Rayeux.
Alors moi j'en ai peut-être un dernier dans la vibe contemplative, et qui justement rejoins un petit peu ce que tu disais, Julien. Nous étions un 1er janvier 2023. Nous allions dans les cinémas du Quartier Latin. Nous allions voir notre premier film d'Andrei Tarkovski. J'ai rompiche.
Il s'endorme.
C'était pas André Roublev que t'avais vu ?
Non, c'était Stalker.
C'était Stalker.
Et en fait, je m'en veux beaucoup parce que Stalker, je me suis fait chier du coup. Mais quand je lisais les analyses qu'il y avait derrière, je voyais tout le sublime qui pouvait s'en dégager tant que t'étais dans le bon état d'esprit pour le voir.
J'ai l'impression que Stalker, c'est un peu comme de la poésie.
Oui.
Tu regardes ce film comme si tu lisais de la poésie.
Est-ce que c'est pas tout le cinéma de Tarkovsky qui est un peu
c'est
comme ça ?
Et du coup, j'ai raté un peu le coche avec Tarkovsky. Et je m'en veux un peu parce que je me dis, je vois tout ce qu'il y a sous la surface qui peut être très intéressant à toucher et à apprécier. Mais pour le moment, ce sublime m'est inaccessible. Et je pense que je gagnerais peut-être à retenter Stalker avant de poursuivre ailleurs chez Tarkovsky.
Pour Tarkovsky, ce qui est pas mal, t'as L'enfance d'Ivan, son premier. Ouais. C'est peut-être le plus accessible parce que c'est le moins poétique que tu retrouves. Mais vu que t'es quand même sur un film de guerre. C'est peut-être le plus accessible, et ensuite je pense que Solaris, il a l'avantage d'avoir ce côté SF qui peut, en plus c'est celui-là qu'il aime le moins de tout ce qu'il a fait.
Ah ouais,
mais il a ce côté qui peut être un peu plus grand public.
Justement, je pense qu'on est tellement habitué à avoir un regard sur des productions américaines ou tu vois des trucs un peu grand public qu'on en fait on doit apprendre à regarder des films comme Stalker. En fait, ça doit s'apprendre, tu vois, c'est une lecture que tu dois prendre l'habitude d'avoir, et c'est pour ça que des fois tu peux regarder un film incroyable, tout le monde te dit des analyses incroyables dessus, mais toi t'as pas encore la lecture, du coup t'as du mal à rentrer dedans.
C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde, faut qu'on reprenne le Tarkovsky par mois. Mais
c'est ce qu'on s'était dit, on s'est arrêté au bout de deux films.
Bon, après tu en as pas fait beaucoup, donc en 6 mois t'auras fait le tour. Hein.
Ouais, on a pas fait beaucoup. Ouais. Mais Stalker, moi ce qui m'avait donné envie dans le film, c'était vraiment tous les plans du mec qui s'abandonne dans l'eau avec le chien et tout. Enfin, c'était vraiment le côté esthétique en fait.
Tu vois, on parlait de Le Mal n'existe pas, mais le début du Mal n'existe pas, ça fait beaucoup penser au début de Solaris. Ce début de Solaris, c'est vraiment des plans sur une rivière, sur des arbres.
Je pense, soit je me remate M, ça dure 1h20, soit je me remate le double avec Stalker qui dure 2h40, mais j'ai un peu plus envie de donner une nouvelle chance à Stalker.
Moi, un film dernier, après j'arrête parce qu'on en... peut-être aller trop loin. En fait, c'est un film que j'aurais aimé voir sur le grand écran. C'était The Green Knight, le film à 24, tu vois, avec Dev Patel et David Lowery.
Il est pas sorti au ciné.
Il est sorti directement sur Prime Video. Et donc moi, j'avais trop hâte de ce film. Je l'ai regardé, j'étais hyper déçu.
Ah, j'ai rompu
fort, moi.
Et en fait, c'est un film, il faut le voir sur le grand. Je peux pas le voir sur un petit écran, c'est impossible, tu vois. Ça aurait été un truc incroyable au cinéma. Et ça, j'aimerais beaucoup le revoir au cinéma.
C'est David Lowery, non?
Exactement.
Le mec qui a fait Ghost Story, que j'adore.
J'ai vu Ghost Story il y a genre un mois, j'ai adoré.
Tu vois, donc c'est un film, putain, j'ai trop la haine de pas l'avoir vu en salle. Je sais pas si un jour il y aura une occasion de le voir en salle.
En tout cas, voilà. Moi, mon choix est fait. Je pense que je vais aller zioter le programme du Quartier Latin et retenter sa chance.
Tu me dis?
À Stalker.
Ah, Stalker, ok.
Ouais.
Bah, chaud.
Ouais.
Peut-être faut lire aussi, tu vois, des trucs qu'il a écrit. Il a fait de la poésie, du coup.
C'est
Tarkovsky.
Vrai. M'imprégner un petit peu de Tarkovsky avant d'entrer dans la salle.
Et mettre de toi dans le film. Te dire,
je vais tellement me sentir comme un étudiant en cinéma en entrant dans le Quartier Latin. Ah, je vais avoir du Tarkovsky.
Je lis la poésie en même temps en attendant avec les pubs.
Ah, excuse-moi. Jérém, quel sera ton film?
Je vais redonner sa chance à Mother.
Très bien.
Mother.
Fred?
Moi, j'ai trop de trucs là, j'ai oublié. Aymon Rayeux. Vraiment, j'ai trop envie de le revoir ce film. Il était trop bien, mais je l'ai pas aimé sur le moment.
Très bien. Et Julien?
Evil Dead ou Conan? Et si le temps me le permet, les deux.
Très bien. Je vais pas faire comme Fred, je vais pas m'accaparer le Joker.
C'est bon,
de la sorte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je propose, à la place d'un de mes jeux, on fera ce récap là. Mais en attendant, j'ai quand même envie de donner le Joker suivant à quelqu'un d'autre. Julien, t'as quand même attendu depuis longtemps là.
Oui.
Ça fait peut-être 5 épisodes, je crois que t'as.
Je sais plus.
Mais en tout cas, ça fait
longtemps. Fred, tu l'as regardé deux fois.
Donc voilà. Julien, l'épisode prochain, tu as un Joker. Et plutôt que de faire un jeu pour moi, on s'y tiendra au courant quand même de savoir si on a tous eu le temps de revoir nos films. Mais voilà, on fera ce petit récap là. Jérém redécouvrira Mother. Julien redécouvrira Evil Dead et ou Conan.
Aymon Rayeux.
Aymon Rayeux, et moi, je redécouvrirai Stalker. C'est chouette.
Trop bien.
Je suis très content, voilà.
Trop cool. Je suis hâte de le voir. Ah, c'est bien, j'aime bien.
Voilà, c'est chouette. Et ben, c'est sur ce, chouette, qu'on va se quitter, mes amis. L'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur les applications de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, mais aussi sur YouTube. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, et prochainement...
possiblement sur TikTok.
On va tenter notre chance sur TikTok. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et on vous fait des gros bisous. Ciao.
Salut.
Ciao.
Profitez de ce beau soleil du printemps.
Écoutez,
imagine, il pleut quand on sort l'épisode.